Bonsoir. Donc je... Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir pour ce café scientifique consacré aux dystopies. Avant d'entamer le débat, je voudrais profiter, je crois qu'elle est dans la salle, remercier ma collègue Liliana Petrova qui a eu l'idée de ce café scientifique. Donc moi-même, je suis Igor Chlebny, je suis le coordinateur pour l'Université de Neuchâtel de ces cafés scientifiques. Et puis, je vais sans plus attendre laisser la parole à notre ami Nicolas Dufour qui va animer cette discussion qui nous plongera dans des univers qu'on espère quand même un peu colorés malgré l'aspect sombre a priori. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci, merci Igor. Vous m'entendez bien ? Ouais, ça va ? Bonsoir et merci beaucoup d'être venu. Vous avez quand même un certain, disons positivement, un certain courage, négativement, un certain masochisme à venir, alors que, un, il fait quand même très beau. Deux, on vous propose un machin avec dystopie. Et puis trois, on vous propose une discussion avec un résident actuel de la Maison-Blanche qui n'est peut-être pas le plus apprécié de l'histoire des États-Unis et de l'histoire politique en général. Donc vous êtes vraiment très courageux ou très motivé, en tout cas, à venir aujourd'hui ici. Et merci donc. Alors, nous allons discuter. Donc vous aurez largement, comme toujours dans ces cafés scientifiques, ici à l'Université de Neuchâtel, l'occasion de poser vos questions, évidemment, à nos éminents invités, que je vais peut-être très brièvement vous présenter. Alors, je vais aller dans l'ordre, ce qui me permet de commencer par Alain Corbellari, qui est le monsieur de la maison, si on peut dire, enfin en partie de la maison, puisque vous enseignez à la fois à l'université de Neuchâtel et celle de Lausanne. Vous êtes donc professeur de littérature française médiévale et vous êtes particulièrement versé dans la réception de la littérature médiévale aujourd'hui. La réception ou sa perception, peut-être. Alors, évidemment, que vient faire la littérature médiévale quand on parle de dystopie ? Eh bien, ce sera votre première charge de nous l'expliquer. Et vous avez pris Thomas More pour nous l'expliquer, justement, et nous le résumer. Par ailleurs, signalons quand même que ce monsieur a écrit un roman d'anticipation dont il n'a pas envie de parler, donc on va évidemment en parler. Puisque, ma foi, l'anticipation, ça concerne, enfin, la dystopie et relève techniquement ou formellement, en tout cas, du genre de la science-fiction. À côté, alors, à propos de science-fiction, ça tombe bien, Vincent Gessler, qui nous vient de Genève, écrivain, très remarqué, puisqu'il a quand même été, donc, deux romans pour l'instant publiés à La Talente, ouais, publiés à La Talente, qui est quand même, sinon le meilleur, très clairement un des meilleurs éditeurs de science-fiction en langue française, Cygnis en 2010, Mimosa en 2012, nous sommes en 2018. Que fait-il ? Nous attendons Vincent Gessler. Et bien entendu, du coup, il sera évidemment éminemment habilité à discuter sur cette thématique. Anaïs Emery, alors faut-il la présenter à Neuchâtel, puisqu'elle est donc la directrice artistique et co-créatrice du Festival international du film fantastique de Neuchâtel, qui se déroule pas loin d'ici chaque année, au mois de juillet. Et puis, celui qui était presque en retard, mais qui prétend ne pas l'avoir été, donc il est déjà un peu dans une espèce de dystopie à lui tout seul, c'est Marc Atala, directeur de la Maison d'ailleurs à Yverdon, musée de la science-fiction, et par ailleurs, à l'Université de Lausanne, chargé de cours, maître d'enseignement, enfin, je ne sais pas quel est le... Enfin, bref, il fait des choses à l'Université de Lausanne. Voilà. Alors, bon, pour commencer, on va très vite aller sur cette question, la dystopie, l'utopie. Donc, on est dans l'utopie, le U est un privatif. Je suis en train de manger sur l'introduction que voulait tenir le professeur éminent qui est à ma droite, mais on va revenir ensuite là-dessus. Mais l'utopie n'a donc pas de lieu. La dystopie, le dys rappelle un peu, nous dit d'ailleurs le Robert, rappelle le dysfonctionnement, par exemple, le dys, le D-Y-S, renvoie, en fait, il est très utilisé, je cite le Robert, nombreux mots de médecine, puisque le dys est tout ce qui dysfonctionne. Voilà. Donc on est dans un lieu qui ne marche pas, littéralement, mais alors il y aura des explications beaucoup plus précises qui vont venir. Je reste chez Robert un tout petit moment. Récit de fiction, la dystopie donc, récit de fiction qui décrit un monde utopique sombre. Alors le Robert, ils font fort, hein, puisqu'on a, dont la dystopie, on a l'utopie, mais elle est sombre. Là, on a un cahier des charges, je ne sais pas si en une heure et demie, on va y arriver. Pourquoi tout ça ? Bah, vous l'avez vu grâce à ce sympathique personnage qui gazouille tout le temps. C'est évidemment parce qu'on peut avoir l'impression que cette vision sombre d'un avenir, ou cette vision d'un avenir sombre, est particulièrement présente aujourd'hui. Alors, ce qui a beaucoup frappé il y a quelques mois, ou presque une année, c'était évidemment ce bond des chiffres de vente de 1984 de George Orwell. Alors, va-t-on chercher dans cette fiction-là quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre l'ère des tweets délirants du matin à Washington ou des fake news en tout genre? Il y a eu, à ce moment-là, ce sont presque des hasards, étant donné les chronologies des industries culturelles, mais on a vu dans le domaine de la fiction, par exemple dans le domaine des séries, The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, qui arrive au moment même où voilà, le statut des femmes est en discussion partout. Donc voilà, question de base, est-on dans un moment où la fiction qui assombrit notre avenir nous parle plus que naguère, par exemple. Alors, pour lancer la discussion, je propose de commencer avec Anaïs Emery, justement, parce que vous voyez des centaines de films par année, hein, pour composer le programme de chaque NIF chaque année. Est-ce que, très simplement, est-ce que vous constatez une augmentation du nombre de films qui s'inscrivent dans le domaine de la dystopie ?
Alors oui, on constate, je dirais, depuis 3 ans, une augmentation du nombre de films qui traitent de thèmes liés à la dystopie, je dirais plutôt liés à la technologie et à ses dérives, et puis aussi à des visions politiques alternatives, mais très négatives. Si je mets une petite limite, c'est parce que nous, on voit beaucoup de films qui sont réalisés dans le domaine indépendant, donc avec des budgets assez limités. Donc, il n'y a pas la dimension de la création complète d'un univers alternatif ou complètement futuriste. Par contre, là, il est réalisé dans le domaine du mainstream. Et là, il y a une course à la dystopie qui va... vous connaissez, entre différentes occurrences des super-héros de la Marvel et les mondes adaptés de la science-fiction à Hollywood et aussi dans les grands studios asiatiques, il y a effectivement aussi une grande présence de la dystopie. Donc elle est présente, je dirais, à deux niveaux. Dans le cinéma mainstream, elle sert beaucoup à supporter l'émergence de héros, principalement, et puis à démontrer la capacité d'une ingénierie à développer des mondes futuristes. Et puis dans le cinéma indépendant, alors là, on voit l'émergence de propositions alternatives ou disons de visions négatives qui ensuite, dans le cours du récit, proposent des visions alternatives à la société qu'on a maintenant ou disons qui peuvent constituer des appels, des mises en garde sur certains points, principalement liés à des questions de genre et à la technologie.
Ah oui, j'allais demander justement des exemples. Quels sont les domaines jugés dangereux, si on peut dire, ou potentiellement...
Là, dans la question du climat vient beaucoup dans le cinéma mainstream à cause des questions budgétaires. Par contre, il arrive aussi qu'il soit traité dans les cinématographies plus confidentielles sur des thèmes qui sont liés au climat, comme l'alimentation, les dérives au niveau de l'alimentation, les business liés à toutes les ressources naturelles primaires, l'eau, l'accès à la nourriture, etc. Et puis enfin, effectivement, la relation de l'humain à la technologie, les questions de genre et les questions de migration.
La technologie vue comme périlleuse ou nous menaçant?
Alors, il y a toutes les visions. Il y a la vision où la technologie est présentée comme un objet qu'on ne maîtrise plus, avec une course en avant. Mais ça peut aussi être, pour ceux qui la maîtrisent, un élément qui pousse à une plus grande liberté dans une société totalitaire si elle est maîtrisée.
Alors, Corbellari, justement, dystopie, utopie, je crois qu'il doit fonctionner tout seul. Dystopie, utopie, parfois on parle même ou on lit contre-utopie. Alors est-ce que la dystopie est une contre-utopie? Est-ce que vous pouvez nous remettre ça un peu dans l'ordre?
Alors il faut peut-être commencer par se demander ce que c'est exactement à l'origine que l'utopie. Utopie, c'est donc un livre de 1516 de Thomas More où il décrit une société imaginaire. À partir de ce moment-là, en fait, on pourrait montrer que des utopies, il y en a bien avant. Déjà chez Platon, la République de Platon, c'est une utopie, c'est un projet de société. Même au Moyen-Âge, il y a des choses qui ressembleraient à des utopies, comme par exemple le pays du prêtre Jean, qui serait un pays catholique derrière les lignes musulmanes. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est décrit dans le fond aussi. Donc, Thomas More est l'inventeur du nom, mais il n'est pas l'inventeur de la chose. Et alors, justement, dans ce nom utopie, alors vous l'avez rappelé, il y a le U qui est privatif, qui est le OU grec. Ce qui n'a pas de lieu, comme l'Uchronie, c'est ce qui n'est pas dans le temps. Mais quand on a formé je soupçonne ceux qui ont formé le mot dystopie d'avoir mal interprété l'étymologie de utopie en comprenant non pas utopie, mais eutopie. C'est-à-dire en grec, e, ça veut dire bien, et mal, et dys, ça veut dire mal. Et donc on a opposé des eutopies, des lieux bien, et des dystopies, des lieux mauvais. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu cette confusion. Et puis, alors justement, depuis que les dystopies sont apparues, sont à la mode, bon, d'abord, on a remarqué que certains des grands romans du XXe siècle qu'on classait parmi les utopies, comme le Brave New World, donc le meilleur des mondes de Huxley, ou évidemment, ça c'est totalement évident, le 1984 d'Orwell, n'étaient pas des utopies, ou en tout cas pas des utopies, mais étaient bien des dystopies. Et ce qui est rigolo, c'est que depuis, finalement, on en est venu à se demander si vraiment les utopies existent. Par exemple, je vais juste vous citer un tout petit passage, juste la fin de l'utopie de Thomas More, qui nous montre que Thomas More, effectivement, c'est une utopiste, mais ce n'est pas forcément une utopie. Il dit à la fin, « Sans pouvoir donner mon adhésion à tout ce qu'a dit cet homme, donc l'homme qui lui a raconté ce pays d'utopie. » Donc, on a longtemps cru que Thomas More adhérait complètement à ça, mais il suffisait de lire son texte pour dire « Oui, je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais cet homme très savant, sans contredit, est riche d'une particulière expérience des choses humaines. Je reconnais bien volontiers qu'il y a, dans la République utopienne, bien des choses que je souhaiterais voir dans nos cités, mais peut-être pas tout. » Il termine par cette très belle formule « Je le souhaite plutôt que je ne l'espère. » Donc, il y a quand même plutôt un côté positif dans ce qu'il propose, mais pas forcément entièrement. Et pour revenir à ce qui, je pense, est la toute première utopie de la civilisation occidentale, la République de Platon, on a pu montrer, c'est le grand philosophe Popper, qui a fait tout un livre pour démolir la République de Platon en montrant que c'était le modèle des sociétés totalitaires. Donc, en fait, y a-t-il eu de bonnes utopies? Ce n'est pas sûr. Et justement, je disais, c'est un peu un jeu maintenant chez les spécialistes de littérature de démonter ce qu'on a longtemps appelé des utopies, toute la suite de Thomas More, pour montrer que finalement, ça grince toujours quelque part. Et peut-être qu'effectivement, que dès qu'il y a projet de société un tout petit peu trop carré, eh bien, il y a le phénomène humain dont on s'aperçoit le facteur humain dont on s'aperçoit finalement qu'il est toujours un petit peu prétérité là-dedans. Et c'est un jeu presque trop facile de montrer que les utopies ont toujours été des dystopies.
Ça se complique par le fait qu'en plus, il y a les relectures historiques ou avec des biais historiques. Quand on veut démolir la République du Platon, voilà, on le fait depuis l'époque où on écrit.
Pour Popper, c'est sûr que l'ennemi, c'est la Russie soviétique. Il faut donc montrer que cette horreur-là vient de loin. Il fait en fait deux gros livres. Il fait un livre contre Platon, puis un livre contre Jean-Jacques Rousseau. Et puis, il pense qu'il a expliqué tout le communisme avec ça. Et pourquoi pas?
Oui, c'était une forme de résumé. Oui. Marc Attala, dans l'histoire justement de la littérature, alors plus précisément de science-fiction, puisqu'on s'y inscrit, est-ce que le Brave New World ou 1984 sont vraiment les textes fondateurs ou on a quelques déjà sinistres dystopies avant?
Des sinistres dystopies, ça. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Alain tout à l'heure, un des éléments assez particuliers avec l'utopie de Thomas More, c'est qu'elle est truffée d'ironie en permanence. Par exemple, le fleuve qui traverse le pays utopique s'appelle Anhydre, donc le fleuve sans eau. Tout comme Raphaël Itlaudé qui raconte l'histoire est celui qui dit des balivernes. Autrement dit, on est en train d'accéder à un pays qui nous est raconté par quelqu'un qui dit des balivernes. Et cette espèce d'omniprésence de l'ironie dans l'utopie de Thomas More fait que, à mon sens, on peut, c'est ce que disait Alain à toute fin, identifier toute forme d'utopie littéraire avec des dystopies littéraires. La question, c'est si vous voulez, il y a une très belle gravure qui existe de l'utopie de Thomas More où on voit Itlaudé donc celui qui nous raconte ce monde, montrer à Thomas More qui se met en scène dans le récit et qui montre l'île d'Utopie comme ça. Bon, c'est de l'autre côté, mais voilà. Il la montre comme ça en disant, comme s'il la décrivait de l'extérieur. Et on voit assez facilement apparaître dans les dystopies le fait que vous avez aussi des mondes parfaits. Le problème, c'est qu'un monde parfait n'est pas forcément parfait pour les humains. Il peut être parfait, voilà. Il peut être parfaitement réglé. Et c'est peut-être justement parce que l'être humain n'arrive pas à être libre dans cette parfaitement réglée que ce monde parfait devient cauchemardesque. Et donc j'ai envie de répondre à ta question, Nicolas, de la manière la plus simple. En termes littéraires, et pas forcément après à des... si on remonte à Platon, etc., on peut presque identifier la première dystopie avec Thomas More, donc avec l'utopie de Thomas More. C'est juste que, évidemment, suivant de où on la regarde... le monde va être parfait ou pas. Il y a un exercice qu'on fait souvent aux étudiants au gymnase, c'est que si vous prenez la première page de 1984 d'Orwell, par exemple, et que vous prenez tous les termes, tous les adjectifs, et vous remplacez ces adjectifs par leur antonyme, en fait, vous vous rendrez compte que ce monde terrifiant, gris, terne, etc., devient un monde lumineux, libertaire, etc. Autrement dit, un des trucs un peu bizarres avec la dystopie, c'est qu'en fait, le lien qu'il existe entre les deux au sens du texte, et on pourrait faire la même chose avec le film, c'est plus la manière dont un système bascule dans l'autre. Autrement dit, les utopies sont des dystopies. C'est juste qu'elles sont des dystopies qui sont racontées de l'extérieur. Inversement, les dystopies sont des utopies qui sont racontées de l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est ironisé d'ailleurs par Voltaire dans le Candide, exactement au milieu du récit, quand on arrive au pays de l'Eldorado, où tous les personnages, enfin, où la première volonté de Candide, c'est quand même de partir. Hein, il se rend bien compte que malgré le fait que ce monde est postulé comme parfait, il est moyennement content avec l'idée. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, un des résultats qui me paraît les plus intéressants des études des utopies, ou en tout cas des dystopies contemporaines, c'est de se rendre compte qu'elles ne sont pas une autre manière que de montrer nos utopies, mais raconter de l'intérieur. Et du moment où on raconte ces utopies de l'intérieur, donc avec des personnages qui sont dedans, en fait, pas à l'extérieur, ce monde qui est censé être parfait devient complètement problématique. Et c'est un exercice que vous pouvez faire avec à peu près n'importe quelle dystopie ou utopie. Vous vous demandez pour une utopie, qu'est-ce que je vivrais si j'étais dedans? Comment je raconterais ma vie? Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup moins marrant. Puis inversement, pour les dystopies, comment je pourrais décrire ça si j'étais à l'extérieur, c'est-à-dire si je ne donnais pas la parole aux citoyens, qui ne sont plus des citoyens, mais des humains qui y vivent. Et c'est évidemment comme ça que le cinéma va jouer, où souvent dans ces dystopies, on apparaît avec des images magnifiques de mondes construits. Je pense à une dystopie qui s'appelle The Giver, par exemple, hein, le passeur en français, où de l'extérieur, tout est parfait, tout est beau, il y a plein de couleurs, etc., tout est bien réglé. Puis non, plus on rentre dans le monde, plus on se rend compte que ce monde est aliénant. Et je pense que c'est un des résultats intéressants qui fait de l'utopie ou de la dystopie des bons outils, en fait, pour réfléchir à nos propres utopies, celles dans lesquelles on vit, mais qu'on ne raconte jamais.
Vous avez bien plombé l'ambiance, là, du coup, puisque donc il n'y a pas d'utopie possible, c'est ce que vous nous dites. L'utopie n'est jamais rien d'autre qu'un monde terrible.
Au niveau de l'utopie littéraire, après le terme utopie est évidemment sorti du champ littéraire pour venir en fait parler de beaucoup de choses, des utopies politiques ou autres. Mais l'exercice qui est de penser une image d'un monde meilleur, cet exercice qui est de se projeter dedans en disant comment je vais vivre dans ce monde meilleur, plutôt que d'accepter qu'il soit meilleur. Et c'est sûrement pour ça que, comme le disait Anaïs tout à l'heure, on voit beaucoup de réflexions sur la question des technologies qui sont toujours postulées comme soulageant l'humain, nous aidant à vivre, etc. Mais sauf qu'on ne s'approprie jamais ces choses-là, on ne se demande pas comment on vivrait dans un éco-quartier, par exemple. Vous voyez, ça nous paraît cool sur le papier, un éco-quartier. Mais comment on y vit ? On se demande pas, ça serait bien d'avoir plus de sources d'énergie qui soient fossiles, mais comment on va vivre dans ce monde-là? Et j'ai l'impression que le récit, il permet de pouvoir non pas dire ce qu'il sera, mais une sorte d'exercice qui nous est donné pour nous rendre compte de comment nous, on peut raconter notre vie en utopie. Donc oui, il y a des utopies, on va dire non littéraires, mais ce qui me paraît important pour les dystopies, c'est comment on va raconter notre vie là-dedans. Et on se rend compte que cette utopie va devenir un peu moins glorieuse. Sans tomber dans les extrêmes des textes, parce qu'on n'a jamais vécu dans le monde de 1984. Vous lisez 84, un, votre vie n'est pas résumable en 300 pages, et puis deux, vous vous rendez bien compte que non, en fait. Hein, tout est tellement cohérent pour anéantir l'humain qu'on se dit, bon, il y a quand même 2-3 marges. Quoi. Enfin, je ne sais pas si vous, moi, quand je lis ce texte, je ne me dis pas, ah, c'est mon monde. Vraiment, heureusement, d'ailleurs. Le Brave New World non plus.
C'est d'ailleurs ce qui est justement étonnant dans un retour de popularité, par exemple. Que va-t-on y chercher maintenant ? Vincent Gessler, alors, auteur de fiction, est-ce que tout ça ne serait pas finalement juste un truc de ressort dramatique, quoi ? C'est qu'un monde parfait est ennuyeux, un monde terrible et terrifiant, et forcément beaucoup plus stimulant à la fois pour l'écrivain et pour son lecteur.
Probablement, parce qu'une utopie, au fond, c'est, ça parle de, du vivre ensemble d'une société avec cette idée de perfection. Ça peut être la perfection dans quelque chose de terriblement oppressant, comme dans 84. Ça peut être la recherche du bonheur. Ça peut être toutes sortes de paramètres qu'on pousse très, très loin. Et au fond, ça marche assez bien pour la plupart des gens. Je crois que dans l'utopie de Thomas More, les marginaux, on veut en faire des esclaves. C'est pas hyper cool, en fait, quand on est l'esclave. Donc finalement... Là, au fond, on pourrait dire que la dystopie, elle intervient quand on change de point de vue, et puis qu'on n'est plus du point de vue de la personne qui met en place cette utopie ou qui la pense, mais du point de vue du personnage ou des personnages qui la vivent et qui la vivent dans la marge. Donc l'utopie, elle aurait cette espèce de valeur collective, là où la dystopie aurait une valeur plus individuelle par ces personnes de la marge. Et c'est ça qui est intéressant au niveau dramatique. C'est plus intéressant de parler de ce qui dysfonctionne, de ce que de parler de ce qui fonctionne. C'est une des bases de la dramaturgie. Et donc, il me semble que c'est pour cette raison qu'il y a plus de dystopie que d'utopie en général, parce qu'au fond, si on présente quelque chose qui va bien, que ça se passe bien, que tout le monde est heureux à la fin, ça peut être chouette, mais c'est des textes plutôt rares. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent sur notre rapport au monde, sur notre satisfaction à être dans le monde et à vivre notre société. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est là où il y a une faille dans le système et où cette faille, elle est dans le point de vue elle est vue du point de vue des personnages et que ça révèle quelque chose et que ça dit quelque chose sur cette société utopique, en tout cas cette espèce d'idéal qu'on essaie de mettre en place, qui dysfonctionne. Et qu'est-ce que ça dit métaphoriquement de notre société aujourd'hui et de nos valeurs et des effets pervers de ce qui va être mis en place. Alors, Anaïs parlait des sujets qui ont la cote ces trois dernières années, des nouvelles technologies, des migrations, du climat. C'est parfaitement cohérent avec les paradigmes qui nous habitent aujourd'hui. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette lecture-là, de l'utopie et de la dystopie, c'est... qu'on aborde les systèmes sociaux, les systèmes politiques. C'est ça, pour moi, qui fait le cœur des réflexions utopiques et dystopiques. Et j'interroge un peu le lien entre utopie, dystopie, enfin, toutes ces topies, et le climat, et le catastrophisme. Au fond, on a des effets de background. Quand on a des discussions de comptoir, et puis qu'on s'interroge, oui, alors, est-ce que Orange Mécanique, c'est une dystopie ? Est-ce que Blade Runner, c'est une dystopie ? Finalement, est-ce que toute œuvre de fiction qui met en scène... un univers post-apocalyptique ou qui a des problèmes, simplement. Est-ce que c'est une dystopie ? Moi, je crois qu'il n'y a pas de spécificité. Il faudrait peut-être retenir des œuvres dont le projet et le discours parlent du projet social, d'un projet totalitaire ou pas, ou réellement d'une technologie qui amène à revoir complètement les modèles sociaux, le clonage, par exemple. Il y avait quelque chose de cet ordre-là dans La guerre éternelle de Joe Haldeman, où... In fine, le projet de vivre ensemble et le projet de société devenaient étroitement liés à la technologie, puisqu'on était en mesure de comprendre les extraterrestres parce qu'on avait développé des technologies de clonage qui nous permettaient de redéfinir nos rapports à notre humanité. Et ça devenait le même que celui des extraterrestres, par exemple.
Donc, en fait, est-ce que c'est une sorte d'effet de quantité ? Parce que c'est le propre de la science-fiction, de partir de quelque chose de très actuel et de l'étendre un peu, avec éventuellement l'hypothèse, et si ? Et puis, de fabriquer un récit qui, en fait, on le dit souvent, la science-fiction ne parle pas vraiment du futur, mais plutôt du présent. Elle utilise le futur pour parler du présent. Donc, la dystopie, c'est quoi ? C'est qu'elle va plus loin ? C'est qu'elle est plus radicale ? Ou c'est qu'elle est plus brutale ?
Moi, je pense que ce serait surtout le type de discours. Est-ce qu'on parle d'un projet de société ? Là, le problème avec Trump, c'est qu'il est en train de démolir une société. Il est en train de jouer sur des clivages. C'est qu'il sert de modèle pour d'autres sociétés en Europe et ailleurs et des discours politiques qui, tout à coup, s'emparent de cette espèce de marketing puis qui font un rebranding de Trump pour faire parvenir... à avoir un écho de leurs idées populistes ou simplistes. Et donc, pour moi, c'est lié à une dimension politique et sociale. Et donc, si vraiment on parle de dystopie ou d'utopie, ou pour peu que ce soit le même objet, vu de points de vue différents, c'est ce qui en fait la spécificité. Après, la brutalité, ben, je crois qu'on parle de ce qui ne va pas. Donc, au fond, pour ce qui est du climat, par exemple, je ne vois pas comment on peut aborder les choses de manière positive et sereine. Surtout quand on voit la trajectoire sur laquelle sont les politiques aujourd'hui. Donc peut-être ce qui est en train d'advenir maintenant dans ces projets de fiction dystopique, c'est d'avoir le retour d'un discours politique qui avait peut-être beaucoup plus dans les années 70, puis qu'on a vu complètement absent, quasiment, en tout cas en littérature francophone de science-fiction, il y a peut-être deux ou trois auteurs qui ont fait leur cheval de bataille, et puis il y en a une partie qui est morte. Donc je trouve ça plutôt intéressant comme axe.
Anaïs Emery, précisément à ce propos, moi c'est vrai que ça me frappe beaucoup ce retour on peut qualifier du catastrophisme, à la limite sans jugement de valeur, mais c'était une très grande part de la littérature de science-fiction des années 70. Et je m'adresse à vous parce que le cinéma aussi, enfin je pense à Soleil Vert, qui est vraiment roman d'abord, ensuite film, et qui était complètement dans ce registre-là. Il y avait toutes les œuvres de John Brunner en littérature, qui étaient vraiment dans ce registre aussi. Est-ce que vous le constatez, ça, aussi ?
Je le constate principalement, comme je disais précédemment, dans le cinéma mainstream, tant en Occident que dans d'autres régions comme l'Asie. Ce qui est intéressant de voir là-dedans par rapport à ces questions entre utopie et dystopie, je pense que comme il est utilisé dans ce cinéma-là, ce qui peut être dérangeant, inquiétant, c'est qu'effectivement, c'est des modes narratif qui ramène exclusivement ou principalement au présent et qui propose peu d'alternatives dans le processus. Et puis ça, c'est effectivement une limitation qui est un peu dommage parce qu'effectivement, ce travail de se projeter en avant, de projeter même des problématiques du présent dans le futur, va pas jusqu'au bout quand il propose pas une alternative en termes de représentation, parce que le cinéma, c'est quelque chose de largement, ou de jeu vidéo largement consommé. Donc, effectivement, quand on parle de monde futur et qu'on a les mêmes représentations sociales ou les mêmes rapports à la technologie qu'aujourd'hui, la proposition devient moins intéressante. Et on tombe effectivement dans un catastrophisme ou alors dans des fictions qui servent uniquement à faire sortir un super-héros, ça peut être Capitaine America, etc.
Donc, il y a un côté vendeur.
Le domaine prospectif peut être un petit peu abandonné. Et là, donc on retourne sur le présent. C'est en fait un gimmick qui permet de parler exclusivement du présent, mais qui n'amène pas forcément d'alternative. Et pour revenir à ces questions de dystopie-utopie, en tout cas, par rapport aux propositions que moi je vois, qui sont intéressantes, c'est quand la dystopie elle est utilisée pour s'ouvrir après, soit sur une utopie ou sur une alternative. Parce qu'effectivement, quand on fait la boucle pour revenir à des choses qui sont d'ores et déjà connues, c'est beaucoup moins intéressant en termes d'imaginaire, en termes de propositions.
Alain Corbellari, donc alors parlons-en quand même, disons un mot de La Mer illusoire, c'est le nom de votre roman. Est-ce que vous étiez dans une, parce que j'avoue que je ne l'ai pas lu, mais est-ce que vous étiez dans une démarche comme ça, un peu de prospection pessimiste?
Je n'étais pas dans une. Alors c'était très pessimiste, mais ce n'est pas un projet de société que je proposais. Je proposais simplement un homme, le trajet d'un homme en temps de guerre. Et c'est une guerre que je voyais dans le futur, mais sur un modèle un peu archaïque, parce que dans mon idée, la guerre, quand on essaie de rationaliser la guerre, ça va un moment, mais ça dure pas très longtemps. Et je me souviens que c'est un roman que j'ai porté en moi pendant très longtemps. Et au moment de la guerre du Golfe, je me suis dit, je vais abandonner ça. La guerre est devenue complètement technologique, ça n'a plus rien à voir avec la situation que j'ai dans mon roman. Puis finalement, je l'ai quand même écrit parce que je me suis rendu compte assez vite que la sale guerre, ça revient tout de suite. Y a-t-il une utopie guerrière ? Alors, on pourrait dire, oui, il y a des dystopies guerrières, évidemment. C'est toujours la question de la rationalité qui vient se mettre là. Mais au fond, la rationalité que, par exemple, les États-Unis des années 90 voulaient mettre dans la guerre, a très vite montré ses limites. Et justement, quand 10 ans plus tard, j'ai finalement finalisé mon roman, je suis revenu à des situations de guérilla qui faisaient assez Seconde Guerre mondiale, et je me suis rendu compte que c'était tout aussi actuel, sinon davantage. Voilà. Mais c'est un roman très individualiste, c'est-à-dire le héros sait très bien ce qu'il fuit, mais il ne sait pas très bien vers quoi il va. Donc, mais je voulais juste revenir là justement sur cette question de la rationalité. Effectivement, si une utopie ou une dystopie se remarque par un projet de société, le problème est très souvent que ce projet justement est trop rationnel. Mais est-ce que l'irrationalité est un remède? J'ai un exemple littéraire pour ça, un exemple littéraire de 30 ans après Thomas More. Rabelais, dans le Gargantua, propose une abbaye, l'abbaye de Thélème, dont le mot d'ordre est « fais ce que tu voudras ». Ça, c'est une magnifique utopie, une utopie irrationnelle, pourrait-on dire. On dira, c'est magnifique. Il y a juste un petit hic, c'est que Gargantua et son copain... attendez, bien, c'est Pantagruel, c'est lequel des deux? C'est dans le Gargantua, Thélème. Oui, c'est dans le Gargantua. Gargantua et ses copains, ils fondent cette abbaye, mais ils ne vont pas s'y rendre comme moines. Et donc, même cette utopie qui a l'air d'avoir toutes les qualités, ben le héros de l'histoire, il n'a vraiment pas envie d'y aller. Donc, voilà, le pire n'est pas toujours sûr, mais l'irrationnel non plus.
Sur cette littérature que vous analysez, dont vous analysez la perception, là, en plus, la période est longue, hein, le Moyen-Âge, de votre point de vue, est-ce que maintenant, avec ce goût apparemment populaire, assez affirmé pour une littérature ou un cinéma comme ça, précisément d'une description assez sombre, est-ce que ça dit quelque chose de notre époque? Est-ce qu'on serait dans des temps sombres?
Alors, si vous me parlez des temps sombres et puis que vous rappelez le fait que je suis médiéviste, évidemment, il y a beaucoup d'utopies qui jouent sur... Enfin, de dystopies. Mais à ce moment-là, on va beaucoup élargir le concept. Est-ce que le monde de Game of Thrones est d'une dystopie? Est-ce qu'il y a un projet de société derrière Game of Thrones? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Et il n'y a même pas... mais ni dans un sens, ni dans un autre, ni dans le sens du rationnel, ni de l'irrationnel. Mais...
Oui. C'est une monarchie. Oui. Dans Game of Thrones, c'est une monarchie. Il n'y a pas vraiment de projet. Ils veulent tous le trône, quoi. Et, au fond, il y a un consensus là-dessus.
C'est ça. Oui. Donc... alors, si on prend une autre fiction construite sur des modèles en grande partie médiévaux, comme Harry Potter, est-ce que le monde des sorciers est une dystopie? C'est peut-être aussi beaucoup élargir le concept. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense effectivement que la période médiévale est une période... Alors oui, c'est une période qui voit l'utopie, mais ailleurs que sur Terre. C'est la cité de Dieu de Saint-Augustin. Alors ensuite, c'est toute la question, est-ce qu'on va pouvoir transposer la cité de Dieu sur Terre? C'est quand même un thème qui a eu pas mal d'écho par la suite. Et c'est aussi quelque chose qui a nourri l'utopie, bien sûr.
Marc Attala, qu'est-ce que... je ne sais pas, même les gens qui fréquentent votre musée, que va-t-on chercher, en fait, dans ce type de fiction?
De quel type de fiction parles-tu?
Par exemple, reprenons 1984, le cas de La Servante écarlate, hein, roman et série aussi, qui peut être intéressant.
Moi, je pense qu'il faut se garder d'une lecture un peu trop reflet du rapport entre la fiction et le monde réel. Déjà parce que ça conduit à des sortes de... À mon avis, de lieux communs, type, il y a de plus en plus de dystopies, ce qui n'est pas tout à fait vrai par ailleurs, c'est un peu difficile. Disons qu'on ne connaît pas celle du début du XXe siècle, disons. Mais, donc il y a de plus en plus de dystopies aujourd'hui, c'est que le monde va mal. Bon, déjà, le monde a-t-il bien été déjà, hein, Et les grandes dystopies du XXe siècle, déjà, c'est compliqué de savoir lesquelles c'est. Donc, qu'est-ce que les gens cherchent? Je ne sais pas ce que les gens cherchent. Ce que je vois, c'est ce que propose une dystopie ou ce qu'elle permettrait au lecteur ou au spectateur de voir. Et j'ai l'impression que, déjà, je ne suis pas convaincu qu'un texte littéraire ou qu'un film a pour vocation de faire un projet de société. C'est vachement gonflé de penser qu'on peut le faire déjà. Pourquoi le faire sous forme de fiction? Autant faire un traité politique, hein, ça va plus vite. Et pourquoi le faire en plus avec une fiction exagérée, purement rationnelle? Fait beaucoup de critères qui fait que moi je ne sais pas pourquoi on lit ça comme ça. D'ailleurs, j'ai jamais eu une dystopie entre les mains ou devant moi où je me suis dit tiens, projet de société. Non, parce que déjà c'est ultra facile à lire une dystopie, c'est-à-dire qu'on voit les choses qui sont déjà là. Ces choses-là sont déjà là. Le télécran d'Orwell, on est en 49, quand le roman est publié, c'est pas non plus comme si la télévision, ça n'existait pas. C'est pas parce que l'ensemble de la population l'a pas. Voilà. Quand Bradbury écrit Fahrenheit 451 et qu'il attaque la société de consommation et les mass médias américains, on est déjà dedans. Donc ce qui est assez particulier, et c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, c'est que je crois qu'une dystopie, elle a cette espèce d'énorme avantage de déformer le monde dans lequel on est, sous forme métaphorique ou pas, mais en tout cas de le déformer, mais c'est très reconnaissable. Chez Thomas More, la raison pour laquelle le monde utopique apparaît dans le livre 2, après quand même 50 pages de livre 1, où on nous explique tout ce qui ne va pas en Angleterre, c'est « voilà tout ce qui ne va pas en Angleterre, ça tombe bien, j'ai rencontré un pays imaginaire où tout va bien. » C'est pas un projet de société, on dit « on va créer un modèle, une image, extrêmement rationnelle certes, mais on va créer une image qui est complètement en permanence décrypté par les humanistes de l'époque comme une image ironique. En plus, c'est dédié à Erasme, l'éloge de la folie, etc. On va faire ça. Le lecteur ne va jamais penser que c'est un projet de société. Ça va être beaucoup pris par le XVIIIe siècle qui va chercher des modèles de société pour pouvoir mettre en place la démocratie naissante. Quand Marx écrit, Engels écrivent Le Capital, ils disent nous ne reconnaissons pas dans le socialisme utopique. Hein, nous, on fait un projet de société. On n'est pas en train de créer une image. Là. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que ce qu'on cherche, c'est une image déformée de notre monde ou ce qu'on peut y trouver, et qui peut-être explique l'intérêt des dystopies dans le fait qu'elles mettent en exergue certaines des formes d'aliénation contemporaine. Elles mettent pas tellement vers quoi on va. Enfin, moi, je confierais pas le dessin d'une civilisation à un texte ou à un film. Mais c'est une démocratie. Mais elles permettent de créer des images de ce qu'on vit. Et si vous prenez toutes ces dystopies au cinéma contemporain, ce qu'elles mettent en avant, c'est la diminution de l'émotion. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez tous ces films dystopiques depuis les années 2000, et je parle bien des dystopies, c'est pas parce que ça se passe mal dans un récit que c'est une dystopie. C'est-à-dire, les gens heureux n'ont pas d'histoire, donc une dystopie, c'est le monde est clos, vous pouvez pas en sortir, vous êtes complètement aliéné. Si vous voulez commencer à vous sortir, on vous réprime, voire on vous tue, c'est ça. Hein, mais c'est une sorte de ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que pas parce que ça se passe mal puis que le monde il est détruit dans du post-apocalyptique, vous avez beaucoup plus d'espoir que dans une dystopie. Dans une dystopie, il n'y en a pas. Sauf dans du cinéma mainstream qui va, évidemment, pour éviter que le public soit comment déprimé à la fin du film, qui va se dire, c'est peut-être bien qu'on laisse une échappatoire, vaguement. Mais c'est ça, hein, c'est, je me réveille un jour, ah mon Dieu, je suis complètement aliéné par le système, je vais essayer de me libérer, j'y arrive pas, on me tue. C'est ça, c'est pas peu glorieux. Alors qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Bah peut-être de raisonner avec ce qui nous aliène. Et ce qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui, c'est l'importance de l'émotion. On est bizarrement dans un monde qui passe son temps à mettre en avant l'émotion individuelle. Et peut-être qu'en fait, cette émotion individuelle, elle est fausse. Elle est complètement préformatée par un système qui vous oblige à l'exprimer d'une bonne manière et dont l'icône absolue, c'est l'emoji, l'émotion préformatée. Bien qu'on pourrait faire un système assez intéressant en termes de syntaxe d'emoji pour complexifier l'émotion, ce que personne ne fait. Et soudainement, on voit toutes ces dystopies qui disent « tout est tellement réglé que l'émotion, elle est calibrée et que du moment où elle est sincère et différente, elle est soit... mise de côté, soit elle est rapatriée, soit elle est anesthésiée, etc. C'est pour ça que tous ces d'ailleurs ces films mettent en place des ados, hein, parce que c'est le bon moment. C'est malheureusement le dernier moment. Donc voilà ce que j'ai envie de dire qu'on pourrait y chercher, mais je pense que si on veut y chercher un projet de société, c'est un mauvais plan, vraiment. Si on veut chercher ce vers quoi on tend, c'est un mauvais plan aussi. Par contre, si on veut chercher une image problématique et métaphorique de ce qu'on vit, c'est un bon plan.
Vincent Gessler, comme écrivain, est-ce qu'on rêve de fabriquer un roman d'une telle ampleur, voilà, un Aldous Huxley ou un Orwell, enfin un roman au monde?
Je crois qu'on rêve.
Sombre soit-il.
Il y a cette espèce de graal de tout créateur qui serait d'arriver à voir le texte ou le ballet ou la pièce musicale ou le film qui serait l'expression des valeurs de notre époque et de ses enjeux. Alors il y en a qui arrivent à faire ça. Après, je crois qu'il faut rester modeste et faire avec nos projets intérieurs. Dans les miens, je me retrouve bien dans ce qui a été dit là, en particulier dans le fait qu'une œuvre, elle met en scène des personnages et que ces personnages, s'ils sont confrontés, pour autant que le projet soit celui d'une dystopie, s'ils sont confrontés à, à tous ces univers oppressants, il va donner une réponse. Et que cette réponse, elle interroge le monde qui est mis en scène et, par métaphore, elle ramène à notre présent et à nos enjeux aujourd'hui. Il y a des œuvres qui font ça très bien. C'est assez facile à identifier quand c'est des gros totalitarismes. Et puis que, bon, alors voilà, 1984, il revient toujours parce que c'est un système maléfique. C'est un système qui s'est spécialisé dans le fait de broyer les individus. C'est un blender. C'est un peu le cas extrême. Ça, c'est facile à identifier. Maintenant, est-ce qu'on a des cas d'œuvres qui le font peut-être un peu plus finement ou qui sortent un petit peu ces registres totalitaires? J'ai essayé un petit peu de réfléchir en arrivant ici, puis réfléchir à Trump, parce que c'est vrai que Trump, c'est un personnage de fiction, quoi. Moi, je sais pas, il y a 10 ans, on m'aurait dit, ça c'est vraiment ce qui va se passer. J'aurais dit, c'est un mauvais scénario quand même, c'est pas hyper crédible, quoi. Enfin, faut peut-être penser à un truc plus crédible, plus cohérent. Puis non, ben, on y est. Donc, il y avait un film qui en parlait, c'était Idiocratie. Je crois que c'était un film à l'époque, je n'en ai pas force. Idiocratie. Ouais. Je sais pas, pour ceux qui l'ont pas vu rapidement, ça part du principe que les gens qui ont un QI faible se reproduisent plus vite que les gens qui ont un QI élevé parce qu'ils se posent trop de questions. Et du coup, le monde est peuplé de teubés et de relous dans 200 ou 300 ans. Et voilà. Et donc, c'est l'histoire d'un mec qui, un peu par hasard, il est cryogénisé, puis il se réveille dans ce monde-là où il y a des piles d'ordures qui s'effondrent, et puis il y a son sarcophage qui arrive dans le salon d'un mec qui est en train de regarder une émission de télé ou ce qui s'appelle Oh My Ball, je crois, où il y a quelqu'un qui reçoit des poids dans les testicules. Enfin, c'est pas du haut niveau. Et c'est à l'image de cette société où le président lui-même, le plus intelligent, c'est quelqu'un qui organise des combats de voitures. Enfin, et en gros, c'était cette idée-là que on en arrive à ce genre de politique-là, où c'est une virée dystopie, où ils ont besoin de cet être du passé qui avait un QI totalement moyen, mais qui est un espèce de génie dans le monde dans lequel il est. Parce que simplement, il arrive à comprendre qu'il ne faut pas arroser les cultures avec de l'isostar, parce que sinon, ça tue les plantes. c'est cet ordre-là. Alors, c'est drôle, mais c'est une des dystopies, je trouvais, les plus abouties qui parlait du monde contemporain, et sur le traitement de l'humour, et pas du tout d'un point de vue totalitaire, effroyable. Et ça, c'est je ne sais pas si, Anaïs, tu as d'autres exemples.
En fait, ce qui me donne envie de réagir dans ce que tu dis, tu parles d'un film qui est le résultat d'un scénario original. Et puis, en fait, aussi pour réagir à ce que Marc disait, pourquoi proposer des alternatives ou des visions de société au travers de la fiction ? Bah déjà, aujourd'hui, beaucoup de choses sont fiction, donc il y a quand même un moyen, enfin, ça reste quand même un bon moyen d'exprimer des alternatives, et ça reste aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'est un des moyens majoritaires. Même la politique devient fiction dans son moyen de s'exprimer. Donc il y a quand même quelque chose d'assez important. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au cinéma mainstream et à sa vision de la dystopie, c'est effectivement que maintenant, la dystopie, elle est utilisée plutôt pour revenir au présent ou pour divulguer des images assez stéréotypées de la société. Alors que les alternatives arrivent plutôt au travers de récits qui ont plutôt attrait de manière plutôt générale à la science-fiction ou à d'autres domaines de l'imaginaire, parfois avec de l'humour, dans lequel on peut effectivement innover. Il y a cette question de l'innovation qui est assez importante dans le domaine de l'imaginaire. Et là, je pense que les récits restent vraiment intéressants. Parce que c'est un domaine, plus que les traités politiques, dans lequel les gens sont encore d'accord de faire le pari de se projeter dans le futur sans être dans un domaine de la propagande. Alors après, on peut voir jusqu'à quel point la fiction est une propagande ou pas. Mais donc là, c'est vraiment intéressant dans la production, je dirais, contemporaine, de voir qu'il y a aussi des alternatives, mais qui sont en dehors soit de l'adaptation de grands classiques de science-fiction, ce qui est dommage parce que y en a qui sont de très bonne qualité, qui restent intéressants à adapter, ou en dehors effectivement du catastrophisme ou de la dystopie dans le domaine du mainstream. Et là, il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, mais même dans des choses assez connues, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, des réalisateurs comme les frères Doren Avanceur, Wachowski, ont toujours proposé des alternatives qui restent assez radicales et intéressantes, notamment récemment. Enfin, il y a quand même des gens qui travaillent, mais à cette proposition d'alternative, mais effectivement, il y a plusieurs ingrédients qui sont nécessaires. Et un des ingrédients, c'est la capacité de travailler avec des récits qui sont nouveaux. Et peut-être que justement, par rapport à ça, par rapport à ce besoin qu'on a toujours de se projeter dans le futur, la dystopie n'est peut-être pas forcément l'outil le plus adéquat aujourd'hui. C'est une question que je pose. parce qu'elle nous rapporte, elle nous ramène plus au présent comme elle est utilisée actuellement.
À vous. Qui va se lancer en premier? Il y a donc un micro pour vous, voilà, qui vient. Oui, monsieur.
Bonjour. Pardon, bonsoir. Alors, j'ai un commentaire. Ça fait 20 ans que j'ai une sorte de réfutation. Je peux réfuter une des 1984. Alors moi, je suis scientifique, mathématicien, et un des thèmes principaux de 1984, c'est de convaincre à quelqu'un que 2 plus 2 égale 5. C'est ça la métaphore. Alors en fait, si on regarde les pays totalitaires dans l'histoire, généralement, ils n'ont... Alors, l'Union soviétique a complètement détourné la biologie. Il y a un type qui s'appelait Lysenko qui croyait des choses fausses, et puis bon, ça ne marchait pas. Mais en mathématiques, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique ont eu des très très bons mathématiciens, très influents, qui étaient complètement pour le gouvernement. Alors en Allemagne nazie, il y avait un type qui s'appelait Ludwig Bieber-Bach, qui est un des grands mathématiciens du XXe siècle, et puis là même, il était tellement nazi qu'il a fondé la revue mathématique des mathématiques ariennes. Et puis après, il a eu des problèmes, il a vécu 97 ans, il est mort en 1982, il a eu des problèmes pour trouver un poste après la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit un très bon livre sur la géométrie élémentaire pendant cette période. Et puis il y avait un autre type qui était encore pire, Oswald Tagmüller. Alors lui, il a chassé tous les mathématiciens juifs des universités. Et il était tellement passionné par le nazisme qu'il s'est porté volontaire pour aller en Russie, et puis il est mort là-bas à l'âge de 30 ans. Mais alors, il y a maintenant, en mathématiques, ça s'appelle la théorie de Tagmüller, c'est tout un domaine, c'est comme l'algèbre. Maintenant, il y a beaucoup de mathématiciens juifs qui travaillent dans la théorie de Tagmüller. En Union soviétique aussi, alors le nombre de mathématiciens brillants en Union soviétique, tout le bloc Est... C'est impressionnant. Et puis, alors la seule exception, je dirais, c'est la révolution culturelle. Il n'y a pas eu de maths. Toutes les annales des mathématiques chinoises, en fait, ils sont publiés, mais c'est des pages blanches pendant la révolution culturelle. Alors.
Mais comment est-ce que vous reliez tout ça à 1984, alors, du coup ?
Oui, alors c'est absolument relié. Parce que c'est des pays totalitaires qui essaient de contrôler tout, et les mathématiques sont encouragées, et c'est des mathématiques correctes. Et la conclusion, c'est que même si on est totalitaire, alors on peut influencer plein de choses, mais on ne peut pas influencer les vérités avérées. Les mathématiques, c'est prouvable, et on ne peut pas... Ils n'ont jamais essayé de convaincre à quelqu'un, les mathématiciens, que les théorèmes corrects sont faux. Donc là... Politiquement, je n'ai rien à discuter avec 1984, mais la conclusion, c'est que c'est faux qu'un pays totalitaire et les dystopies... Bon, alors c'est une fiction, mais que les pays totalitaires n'ont jamais essayé de démontrer aux gens des choses qui sont absolument vraies. Les mathématiques font partie du raisonnement logique humain. Donc... L'expérience démontre qu'aucune civilisation totalitaire a essayé de contredire l'esprit logique basique qui donc est exprimé par les mathématiques.
Ouais. Mais alors, moi j'ai une question. D'accord. Vous parliez de Lysenko, qui est donc a réinventé la génétique dans l'ex-Union soviétique de manière complètement farfelue parce qu'il avait des crédits. C'était vraiment très très farfelu. Ils n'ont pas eu d'avancée de ce point de vue-là. Alors, on peut avoir des maths qui sont un outil correct, mais par ailleurs, ne pas être capable de progresser sur certaines sciences, et en particulier, être capable de faire des propagandes au niveau des idées ou de l'histoire. Ce n'est pas incompatible, à mon sens.
La biologie et les mathématiques sont complètement différentes. Les biologies, on fait des expériences. Alors, il y a beaucoup de biologistes qui ont fait des expériences incorrectes, mais les résultats étaient corrects. La génétique est basée sur des expériences fausses.
Est-ce qu'on n'est pas un peu hors sujet ?
Ouais, non, non, mais l'idée. Et puis bon, alors.
Non, on entend bien ce que vous voulez nous dire. Mais cela dit, revenons à 1984. Non. Le 2 plus 2 égale 5, c'est une affaire de psychologie politique. Ça n'est pas une affaire de mathématiques. Non, on est dans la fiction, là.
Je n'ai pas terminé.
Oui, mais alors.
Pardon.
Terminez brièvement, s'il vous plaît.
Alors, dans les années 70 et 80, il y avait l'université de Moscou qui avait des étudiants qui voulaient y rentrer. Et puis les étudiants juifs ont eu des questions difficiles et les étudiants non-juifs ont eu des questions faciles. Et donc ça a causé beaucoup de problèmes pour ces personnes qui ont été recalées. Et puis il y avait une liste des problèmes qui ont été publiés et qui ont fait le tour du monde parce qu'ils étaient très difficiles. Et ces questions-là étaient politisées. Puis moi, il y a 20 ans, j'étais la première personne à analyser ces problèmes. Et puis, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, où il y a mes solutions et mes conclusions. Donc, ça, c'est le seul exemple dans l'histoire du monde que je connaisse où les mathématiques ont été utilisées comme outils politiques. Et ma mission, c'était de les dépolitiser. Mais les problèmes étaient corrects. C'était pas faux.
OK. Merci pour ce témoignage, monsieur. Autre intervention, question, remarque, témoignage aussi. Et il y a un livre à vendre, du coup.
Merci. Alors, c'est juste pour intervenir, histoire de débloquer tout le monde, parce que j'ai l'impression que les gens ont peur. Moi, je trouvais très intéressant les réflexions que vous avez eues sur l'utopie et la dystopie comme une question de point de vue. Et puis en fait, ça m'a fait penser à un livre que je lis actuellement de Paolo Bacigalupi. C'est relativement littérature assez populaire, assez jeune, mais qui s'occupe des grandes entreprises, donc des corporations, comme la source en fait de la dystopie. Puis je pense que c'est effectivement une projection d'un problème actuel, la prise de pouvoir des grandes entreprises. Dans ces livres-là, je constate qu'effectivement, il y a cette question de point de vue, puisque finalement, l'utopie de ces grandes entreprises, de ces corporations, est la dystopie des personnes qui vivent dedans et qui doivent du coup subir finalement le régime. Donc, juste pour faire un lien avec Trump, je me demande, et c'est assez effrayant à se l'imaginer, mais de se dire que la dystopie que nous, on s'imagine en voyant son régime se développer, puis le futur possible que ça pourrait engendrer, ben, peut-être dans la tête de certaines personnes et dans la sienne, c'est une sorte de vision utopique. Donc ça, je pense que c'est vraiment la question la plus effrayante, parce que finalement, c'est le manque de communication ou d'empathie possible entre ces deux mondes-là qui fait que Trump et compagnie qui ont le pouvoir peuvent imposer leur utopie et qu'elle devienne la dystopie de que ce soit des femmes, des immigrants, etc.
C'est intéressant parce que ça rejoint complètement ce que disait Marc Attala tout à l'heure. Hein. Dès lors qu'on entre dans le système décrit.
Mais je trouve vraiment intéressant ce que vous avez dit, surtout parce qu'il y a peut-être quelque chose qui me paraît assez important à ajouter. C'est qu'en fait, si on prend l'utopie au sens large du terme, c'est-à-dire le sens courant, comme on l'utilise habituellement, c'est-à-dire une vision un peu idéale d'une évolution sociale, je trouve que la littérature ou disons, la fiction, après. Moi, je suis toujours un peu. Enfin, on parle de ces mots comme si c'était un peu évident. Et j'aimerais bien que Trump soit de la fiction. Hein. Le problème, c'est qu'il ne faut pas confondre le storytelling, la fiction, la simulation, les mises en scène, la dramaturgie politique. Enfin, vous voyez, tout devient un peu. Sinon, on se perd un peu dans le truc, quoi. Je vous promets que pour les gens qui souffrent du système, ce n'est pas de la fiction. Il y a des ressorts fictionnels, mais ce n'est pas de la fiction. Quand vous avez acheté un roman, heureusement, sur la couverture, il est marqué roman. Et il n'y a que certains gens qui sont un peu excités avec Da Vinci Code en pensant qu'on nous cachait des choses, mais c'est peut-être parce qu'on aime bien les théories du complot.
Il y en a.
Je pense que la distinction entre la fiction et la réalité est très claire. Surtout en Occident, où la fiction se manifeste comme une fiction. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ça. Par contre, l'utopie des uns et des autres, je trouve que la littérature et les dystopies en général vont mettre en scène des utopies contemporaines. Et cette mise en scène reconnaissable, moi je peux vous prendre à peu près toutes les dystopies publiées au XXe siècle et vous dire l'utopie qui est mise en avant. Et qui est comme par hasard celle de son temps. Vous voyez que c'est quand même bizarre. Orwell, il écrit 84 en 48, publié en 49, on est après les grands systèmes totalitaires. Il prend une dystopie qui s'appelle 1984. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les gars, si jamais le totalitarisme n'est pas mort. Que dit Hannah Arendt en 64 ? La démocratie, c'est quoi ? Un totalitarisme soft. Et c'est pleinement dans l'air du temps. On n'est pas en train de... Et c'est une erreur de penser, à mon sens, que la dystopie nous met des projets de société. Par contre, qu'elle vienne questionner les utopies de notre projet de société, ça oui. Et je trouve que votre réflexion est intéressante pour ça. Et c'est peut-être ça qui fait de la fiction dystopique un outil intéressant. C'est qu'il nous permet de mettre au jour les utopies qui fonctionnent dans notre système social. Ces utopies, vous en connaissez tous. Vous n'avez qu'à prendre n'importe quel journal, même si je ne lis pas les journaux de la Châtelois, honte à moi, mais bon. Et vous voyez apparaître ces utopies du demain. Vous voyez, l'écologie, c'est un bon plan. Et si on fait ça, on va enfin sauver la planète. Bon, ok, ce n'est pas une petite tâche, hein, je veux dire. Je pense que la littérature a cet office de caisse de résonance. Elle va intégrer des utopies. Et c'est peut-être ça ce que disait Vincent que je trouve intéressant. Un auteur est génial quand il est capable de percevoir les liens humains qui vont se nouer autour d'une utopie. Utopie de la communication, il y en a une bonne, hein, c'est ça. Et vous avez tous vécu la dystopie de cette communication-là. Type, vous ne pouvez plus partir de votre téléphone portable, vous commencez à baliser, on est tous des junkies. Mais quand on commence à parler de l'importance de la technologie comme addict dans les années 80, c'est déjà là. C'est déjà trop tard. Mais ce n'est pas un projet de société. Quand vous lisez nos romanciens de Gibson qui inspirent Matrix des frères, sœurs, Wachowski. Oui, parce que pourtant, c'est deux sœurs. C'est donc 15 ans après. Il a déjà compris, puisque qu'est-ce qui l'inspire d'écrire le nos romanciens, c'est de voir deux enfants qui jouent sur une Atari VCS 2600 en se disant ces types sont en train d'être addicts à un autre monde. Ce n'est pas ce qui va nous arriver dans les dents, hein. C'est déjà là. Et je pense que ce que vous dites est bien. La dystopie, elle sert par sa capacité à mettre en scène nos utopies, et c'est pour ça que je pense que le post-apocalyptique n'est pas dystopique, parce qu'il n'y a pas d'utopie là derrière. Elle met en scène nos utopies, et ce faisant, elle encourage le lecteur, le spectateur, le joueur, etc., à condition qu'il soit capable de décrypter ça, ce qui suppose que vous enseignez la dystopie à l'école. Je ne sais pas si ça se fait à Neuchâtel, mais dans le canton de Vaud, ça ne se fait pas. Bon. À décrypter que c'est peut-être cette mise à jour de nos utopies qui nous permet de mettre en scène, de mettre en place quelque chose de l'ordre d'une sorte de lutte, pas une lutte, on va balancer des pavés, hein, mais une lutte en tout cas intellectuelle, nous permettant d'éviter de penser qu'en achetant le dernier iPhone, on va mieux communiquer, oui, par exemple. Mais qu'on va d'abord en fait acheter notre nouvelle dose, et puis qu'on peut le reconnaître. Puis ça fait peut-être pas du bien, mais c'est comme ça. Et depuis quand la littérature est là pour nous satisfaire, hein? C'est rarement une bonne image de nous-mêmes qu'elle nous renvoie, tant mieux d'ailleurs. Parce que si elle ne le fait pas, qui le fait ?
C'est bien l'objectif.
Ouais.
Oui, Vincent Gessler, du coup, à propos de littérature.
Mais c'est surtout par rapport à ce que vient de dire Marc. Ce que je trouve fascinant, c'est que justement en 1984, il y avait une pub qui avait été faite, je crois, par Ridley Scott, où, pour le lancement de Apple, où justement il y a une femme athlétique qui rentre avec un marteau, qui brise, je crois, qui brise un écran, qui part en mille morceaux, avec quelqu'un qui criait « Nous régnerons ». Et où il mettait en scène un dispositif complètement dystopique en disant la technologie va nous libérer de l'oppression grâce à la communication, grâce à l'ordinateur. Et puis on en arrive maintenant à un nouveau paradigme technologique qui peut avoir des effets libérateurs, ce que tu disais avant par rapport à des récits qui mettent en scène une technologie bien utilisée ou qui peuvent avoir des effets pervers. Je ne suis pas sûr qu'en Turquie maintenant... Les dissidents du régime soient super contents d'avoir toute une technologie qui permet de les contrôler. Et donc, au fond, moi, je retiens que ces récits dystopiques, ils ont une valeur quasi mythologique. Ils s'adressent... quand on parle de 1984, il y a vraiment une figure mythologique de Big Brother. On personnifie l'oppression, on personnifie ce monde parfait qui a des effets pervers. Et au fond, je retiens que tous ces récits, qu'ils soient de la série, du film, du livre, de la bande dessinée ou du jeu vidéo, ils ont une valeur éducative. Et je pense que c'est un aspect très important. Ces récits sont à la fois un laboratoire d'idées, ils ont une portée philosophique, ils nous servent à penser le monde dans lequel on est, à interroger nos valeurs, mais ils servent aussi à amener nos enfants à penser le monde et à s'interroger sur leurs valeurs. Et c'est une portée que je n'aimerais pas sous-estimer.
Alors, Corbellari, sur ce terme de peut-être d'une forme de mythologie, ça vous inspire, ça, dans cette fiction qu'on décrivait comme sombre?
Je repensais justement à ce que je disais sur Platon, qui est une utopie. Platon non plus ne fait pas ça à partir de rien. Il le fait à partir de sociétés totalitaires qu'il connaît. Il le fait à partir de modèles mythologiques qu'il connaît. Alors évidemment, c'est pas vraiment un écrivain au sens où il ferait pas un roman. Et donc c'est toujours la lecture qu'il y a derrière, mais finalement la lecture, heureusement je dirais, la lecture que l'on peut faire de grands textes littéraires utopiques nous permet de déjouer ce que les écrivains n'ont parfois pas voulu voir. On dit toujours les deux grands romans dystopiques du XXe siècle, c'est 1984, on en a beaucoup parlé. Il y a aussi Brave New World, le meilleur des mondes de Huxley, on en a moins parlé. Et là, c'est un cas assez intéressant parce qu'il y a eu un énorme débat pour savoir quel était exactement le point de vue de Huxley sur le monde qu'il mettait en scène. Et alors que pour Orwell, c'est évident, pour lui, c'est une dystopie, c'est un monde affreux... Tous les débats autour de Huxley sont extrêmement complexes parce que Huxley avait un frère qui était généticien et donc on a certains ont voulu absolument montrer que au fond Huxley croyait vraiment à un monde d'eugénisme en particulier. Alors, c'est sans doute pas la bonne manière de parler de la littérature, mais c'est pour dire que faut pas toujours créditer absolument il faut toujours créditer les écrivains d'être au moins aussi intelligents qu'ils en ont l'air, et si possible plus intelligents, parce que quand on voit des gens qui prétendent que Huxley a vraiment voulu faire un projet de société, et des gens intelligents qui argumentent ça, ben ça fait peur. Alors que, en fait, si on a une lecture vraiment littéraire, on arrive à aller au-delà de ces clivages. Mais faut savoir que c'est pas forcément donné d'avance. Et la façon dont on lit les romans, dont on nous fait lire les romans, dont selon certains Huxley aurait voulu qu'on lise ses romans, va dans un sens qui n'est pas vraiment libérateur. Heureusement, la littérature est plus forte que certains de ceux qui la font.
Juste rebondir brièvement, mais très brièvement, je trouve vraiment intéressant ce que disait Alain, parce que tout ce qui touche à la science-fiction au sens large, qui est tout aussi difficile à définir, enfin non, c'est plus difficile que la dystopie, effectivement, on ne sait pas tellement comment les lire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font de part et d'autre, que ce soit dans les écoles pédagogiques, que ce soit dans les universités, que ce soit aussi à des initiatives singulières. Enfin, en tout cas, on en voit beaucoup de gens arriver au musée avec ces questions. J'aimerais aborder, nous autres, des amis à Tine avec mes élèves, comment faire, etc. C'est qu'un texte de fiction... c'est pas pour rien que vous rappelez, on a tous fait ça à l'école, l'analyse de texte, la dissertation d'analyse de texte, tout ça. C'est parce que c'est pas évident. Et qu'on nous apprend aussi qu'il existe plusieurs niveaux de lecture et que ça peut être des fois bien qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Ça déjà rend hommage à l'intelligence humaine. Et puis d'autre part, ça permet de pouvoir aussi faire passer des choses différemment, etc. Et c'est comme si la science-fiction et tous ses dérivés n'avaient qu'un niveau de lecture, au sens plan-plan, prospective. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui se fait intéressante au niveau pédagogique pour essayer de comprendre comment on peut décrypter et que ce qui sort, et qui n'est pas caché, c'est pas une sorte de texte un peu caché, que ce qui sort met à jour nos utopies, nous permet de comprendre aussi comment raconter nos vies, hein, nous offre des modèles d'intelligibilité. Ah tiens, c'est marrant, j'avais jamais pensé à la connexion qui se faisait entre mon addiction personnelle et le téléphone portable. C'est pas comme ça qu'on me le vend. Le téléphone portable, la cocaïne plus déjà, mais le téléphone portable pas. Et je pense que c'est là le pouvoir de la littérature qui peut être enseignée et qui doit être enseignée, ainsi que les classiques, ainsi que d'autres formes littéraires. Évidemment, il ne faut pas non plus... sinon vous êtes monomaniaque, mais je voulais rejoindre là-dessus, sur comment on lit. Et ce n'est pas si évident de comment on lit une dystopie qui s'inscrit dans une longue tradition, on l'a pu esquisser très rapidement ce soir, et c'est que l'enseignement qui permet de pouvoir aussi rattacher un peu cette tradition, faire des liens et autres.
Monsieur.
Merci. Monsieur Attala, vous avez utilisé la référence dans votre commentaire d'avant, je voulais parler de Matrix. Ça, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, moi, quand j'étais post-ado quand même, mais j'étais déjà très connecté et j'ai vu Matrix et j'ai compris beaucoup de choses. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a ouvert beaucoup l'esprit et m'a engagé en fait vers une conscience politique beaucoup plus forte. Et donc, vous disiez tout à l'heure, toutes les dystopies, ce ne sont pas des projets politiques. Mais ma question, c'est, est-ce que, par contre, est-ce que ce ne seraient pas tous des outils politiques ? Est-ce que ceux qui écrivent cela utilisent ces dystopies comme un outil politique pour éveiller les consciences et faire agir les gens ?
Mais juste qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous dites, j'ai compris des choses. Vous avez...
Oui, parce que, bon, comment, je veux dire, moi, j'ai eu la chance d'être connecté très, très tôt, hein, le premier ordinateur en 81, et puis Internet, dès que ça a commencé.
Est-ce une
chance ? Pour moi, oui, c'est une chance. Moi, parce que je suis dans le monde technologique, donc pour moi, c'est une chance. Ça me permet d'avoir compris des choses, mais le voir, effectivement, toute la métaphore qu'apporte Matrix. Bon, après, évidemment, il y avait 84 qui existait déjà, mais la métaphore de Matrix a été, pour ma génération, extrêmement forte.
Voilà. Donc, quand vous dites comprendre, c'est que ça vous a permis de mettre un peu une distance par rapport à l'euphorie que vous pouviez avoir sur la connexion.
Oui, par exemple, ça a accompagné aussi le mouvement. C'était le début du gaming. Et moi, j'avais par exemple réalisé, j'ai vécu l'apparition des mondes persistants, hein, un monde sur lequel vous jouez et vous déconnectez, le monde continue. Et ça, c'était aussi dans les années à peu près en même temps, 98, 99. Et le fait qu'un film comme ça vienne en même temps que l'apparition de jeux persistants, ça a permis, par exemple, à moi de dire, j'arrête de jouer, je ne vais pas jouer sur ces jeux-là, par exemple. Voilà. Donc,
Marketala, puis peut-être Anaïs aussi, hein, sur ce côté un peu outil de décodage de la fiction.
Non, même politique, même
oui. Du moment où la politique est normalement dans les démocraties, en tout cas faite par la Vox Populi, paraît-il, en tout cas en Suisse, ça peut, je ne pense pas que ce soit un outil politique. Je pense que c'est d'abord un outil anthropologique. C'est d'abord humain. À partir de ce moment-là, cette conscientisation, quelle qu'elle soit, ou ces conscientisations, la plupart du temps, avec un problème assez classique de la fiction, vous savez, vous n'êtes jamais autant écolo que quand vous êtes dans un film post-apocalyptique. Parce qu'il se passe un truc qu'on appelle la catharsis depuis Aristote, c'est-à-dire qu'en fait, on vit à fond cette vie-là, on éprouve des émotions, et on sort en disant « Ah, j'ai un 4x4, donc je vais boire un café, puis je sors de la catharsis ». Et je reprends mon 4x4. Donc, ça ne peut pas être un outil politique à cause de ça. Par contre, un outil anthropologique, c'est-à-dire en fait la capacité de conscientiser certaines connexions, et sans mauvais jeu de mots avec Matrix, mais certaines connexions entre mon comportement quotidien et des choses toutes bêtes qui m'entourent, par exemple mon 4x4 ou mon téléphone portable, c'est un outil d'abord humain. Après que vous en fassiez un outil politique... ou sociologique, ou ce que vous voulez finalement, ou pédagogique. Bon, ok, mais ça, c'est votre liberté. Mais je ne pense pas que c'est d'abord un outil politique. Il y en a sûrement qui l'ont été faites dans ce sens-là, ce qu'on appelle des propagandes. Ce qu'on appellerait dans le gaming le serious game, suivant quoi, où on veut absolument nous faire passer des trucs. Et il y a une frontière assez fine entre la propagande et la fiction. Mais je pense que, ou en tout cas les fictions critiques, je pense que c'est d'abord un outil anthropologique, qui permet possiblement une conscientisation, pas sûr, surtout si vous consommez le film. Avec ce que vous allez faire après avec ça, j'ai envie de dire que ça vous regarde, première chose, et plus le roman va vous dire ce qu'il vous faut faire, c'est-à-dire plus il est un outil politique, plus on appelle ça dans le champ littéraire des romans à thèse. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez aucune liberté, en fait. On vous dit, si vous ne pensez pas ça... Voilà. Et j'espère sincèrement que toutes les dystopies que vous allez voir ou autres ne seront jamais des outils politiques. Parce que si vous voyez un outil politique réel, au sens strict, ça veut dire que vous êtes face à un texte à thèse ou de propagande. Par contre, s'il amène une réflexion, s'il éclaire le quotidien, s'il éclaire votre propre rapport à la technologie, alors ça devient intéressant.
Anaïs Emery, question très simple. Tout au long de ces années du NIF, est-ce que vous avez eu l'impression parfois de proposer à votre public tout à coup un film qui va avoir un peu cet effet que disait monsieur, qui va permettre de comprendre?
Ben, je parlais tout à l'heure des frères, désormais sœurs Wachowski, parce qu'effectivement, c'est des personnes qui ont eu l'occasion d'être très en adéquation avec leur temps. Pourquoi ? Parce qu'elles ont eu l'occasion, je le disais avant, mais je crois que c'est important de le répéter, parce qu'ils font partie des personnes qui ont l'occasion de développer des scénarios eux-mêmes, ou de travailler avec des gens qui peuvent le faire. Donc ils étaient en prise directe avec leur temps. Donc effectivement, dans le domaine du cinéma, entre guillemets, indépendant, ou dans les domaines mainstream où il y a de la création de fiction, il y a effectivement des retours sur le réel qui sont très importants. Et là, il y a vraiment des moments où on trouve des fictions cinématographiques ou même dans la série qui répondent à des questions qui sont complètement en prise avec, avec ce qu'on vit dans la société. Mais de manière plus générale, toute façon, qu'elle soit absolument en lien ou pas, c'est comme dit Marc, c'est une question aussi de ressenti. On va trouver que les frères Wachowski sont des espèces de, d'allumés qui ne sont pas du tout à jour. Il y a des gens qui ont aussi pensé ça. Donc ça, ça dépend aussi de comment est-ce qu'on analyse la chose. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est l'exercice de voir ou de consommer ou de lire des fictions qui proposent des sortes de prophéties ou alors des dystopies, puis de savoir si on, comment on se positionne par rapport à ça. Et puis c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il propose des visions. Est-ce que je me vois là-dedans? Est-ce que c'est un monde dans lequel je peux me trouver évoluer? Est-ce que ça répond à une... Est-ce que cette fiction futuriste, elle est basée sur un présent qui ressemble au présent que je connais? C'est les questions qui reviennent le plus souvent. Et effectivement, bah, dans le cinéma, comme il y a un aspect visuel qui est très fort, on voit très vite si l'adéquation avec la base, ou, elle est forte. Parce que la question du visuel replace tout de suite la force de l'imaginaire. Parce que l'imaginaire, il n'est pas seulement littéraire, il est aussi créatif. Donc il y a une immersion qui est très forte dans le domaine du cinéma. Et là, effectivement, c'est très intéressant de voir aussi par rapport aux nouvelles technologies qu'on a des nouveaux moyens de proposer des immersions dans des propositions. Voilà. Là, ça devient entre le jeu vidéo, les médias immersifs, les moyens de développer des univers narratifs deviennent très très forts.
Monsieur, oui.
Plus spécifique à Monsieur Gessler, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comme ça pourra peut-être revenir sur la thématique de la soirée, le rapport entre réalité et dystopie. Quand vous avez parlé, mis en parallèle Trump et le film Idiocratie, c'est bien son titre. Hein. Ce qui est intéressant. Ce que j'ai entendu, hein, après on entend chacun quelque chose de différent peut-être, chacun, chacune. Ce que j'ai entendu, c'est que le schéma explicatif qui marche dans le film, mais que vous, peut-être, vous portiez aussi sur le plan de la réalité par rapport à Trump, c'était la bêtise. Que la bêtise pourrait permettre soit des dystopies dans le domaine de la fiction, soit rendre notre réel dystopique. Et là, je ne serais pas totalement d'accord. Comme monsieur le mathématicien nous l'a dit tout à l'heure, nous servons quelques exemples, hein, mais on pourrait aussi trouver en physique, von Braun, Heisenberg, moi je viens de la philosophie, je dirais Heidegger. On a beaucoup de gens très intelligents qui se sentent très bien dans un régime totalitaire, même assez à l'aise. Voilà, mais oui, mais disons, on peut continuer à faire produire les plus grandes production de l'esprit humain assez tranquillement en régime totalitaire. Et je ne me demande pas si borner l'explication dystopique dans la fiction de la réalité à la simple bêtise des masses, ol poloi, dirait Aristote, ce n'est pas un refus aristocratique, peut-être de bon ton dans un milieu universitaire, mais un refus aristocratique de quelque chose qui fait peur. Après, il faudrait s'assurer, hein, ça fait peur à tout le monde, ça a pas mal fait peur à Adorno, par exemple. Ou...
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, l'interrogation, peut-être la reformuler, mais là, c'est la bêtise de l'aristocratie qui fait peur, pas tellement celle des masses.
La bêtise des masses, ou la bêtise de quelque chose... La bêtise de...
Là, c'est l'incompétence.
L'incompétence ou la bêtise, vous dire oui, c'est parce que les gens deviennent débiles que ce genre de choses.
Voilà, je me positionne. Je me positionne pas par rapport à ça. Ça, c'est un argument de comédie. Donc il y a un argument de comédie qui est de dire les gens sont de plus en plus bêtes. C'est pas ce que je pense, hein, mais je trouvais rigolo comme métaphore évolutionniste de se dire au fond au niveau des idées, si on continue à être dans un régime de fake news et puis qu'on perd le travail de critique des sources. Ou qu'on perd les acquis de certaines sciences, puis qu'on remet en cause des fondamentaux en permanence et qu'on n'est pas formé. C'est un petit peu ça, la métaphore. Effectivement, ça peut être le règne de la bêtise, d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'il faut prendre au premier degré cette métaphore. En tout cas, ce n'était pas mon intention. Et c'est à ce titre que je compare ça avec le régime et le discours trumpiste qui s'attaque à la notion de vérité. et à la notion de formation intellectuelle. Alors peut-être par rapport à votre question initiale, je ne sais pas si on peut la resituer.
Je sens des fois la tentation d'expliquer justement Trump, les populismes européens, par le biais de masses qui ne réfléchiraient pas. Mais je vois là-dedans une espèce de dangereux refus aristocratique de quelqu'un qui se pose des questions, comme il a dit, voilà, c'est parce que ces gens sont bêtes qu'ils votent un tel. Et je trouve assez dangereux.
Non, je pense que la réalité est plus complexe que ça. Et ce qui m'intéressait dans l'exemple, c'était la métaphore.
Alain Gombrelli, vous voulez prendre la parole.
Je rebondis sur le thème de la bêtise. Je ne crois pas que c'est un thème aristocratique parce que c'est souvent les journaux de gauche et les caricaturistes de gauche bien pensants, un peu quand même mainstream, justement, pas l'extrême gauche forcément, mais on aime beaucoup à gauche dénoncer l'UDC simplement comme des gens simplement bêtes. Donc pour moi, ce n'est pas aristocratique que de dénoncer la bêtise. C'est au contraire une idée bien pensante. Et puis qui, effectivement, nous permet d'éloigner les choses, parce que, évidemment, la bêtise, c'est toujours l'autre. Donc, je ne vois pas d'aristocratisme là derrière. Je dirais même presque au contraire. Mais évidemment, la question de la bêtise ne résout rien. Si vous prenez Flaubert, pour Flaubert, tout le monde est bête. Et en fait, ce que Flaubert met derrière la bêtise, c'est sans doute en grande partie autre chose. Je vous renvoie au livre de Sébastien Dieguez qui vient de sortir sur Total Bullshit. Il va complètement... On revient à Trump avec ça. C'est-à-dire, il évacue le thème de la bêtise et il le remplace par le thème du bullshit. Et ça marche très bien sur Flaubert. Ceux dont Flaubert dit dans Madame Bovary qu'ils ont des discours bêtes, c'est pas du tout des gens bêtes. C'est des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils arriveront à manipuler les autres. Madame Bovary, elle est victime d'un séducteur. C'est pas un séducteur idiot. Il arrive tout à fait à ses fins. Il arrive à la séduire. Donc il est pas bête. Il dit des bêtises, mais ces bêtises ne sont pas des idioties dont il serait lui-même victime, au contraire. Et l'idée de bullshit, de ce point de vue-là, est intéressante. Et je disais, on revient à Trump. Au fond, le discours que l'on appelle bête, c'est souvent un discours fumeux et enfumeur. Et c'est avec ça qu'on fait des... Ben, c'est avec ça, entre autres, qu'on fait des dystopies. Plus qu'avec de la bêtise, je pense.
Alors, voilà. Alors, monsieur.
Bonsoir. Une petite question, soit pour Madame Emery ou Monsieur Attala, pour refaire le lien entre une certaine dystopie et puis la réalité. Si je reprends la définition de la dystopie comme un système dont on n'arrive pas à sortir et qui nous liquide si on essaye de s'opposer, dans le cinéma mainstream un petit peu actuel ou récent. Il y avait les séries Divergentes, les séries Labyrinthe. Et puis, ben, ça me fait me poser la question, alors quel est le déjà-là, puisque du coup, ce serait l'idée qu'on s'inspire de cette dystopie, de quelque chose qui est déjà là. Quel serait le déjà-là dans nos sociétés par rapport aux adolescents ou à la position des adolescents dans nos sociétés? Est-ce que c'est parce qu'on a une dérive, notre démocratie, d'un côté totalitaire? Est-ce que c'est parce que notre démocratie, elle est vécue d'une manière totalitaire par les adolescents qui seraient en marge? Enfin, voilà, question ouverte.
Alors, bah, peut-être justement à Anaïs Emery, puisque vous l'évoquiez. C'est vrai qu'il y a un marché de la dystopie pour ados, hein. Enfin, clairement. C'est un business aussi.
Bah, je crois clairement que ça fonctionne aussi sur un sentiment qui est prouvé par les adolescents eux-mêmes, ça c'est clair. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir dans les fictions qui leur sont proposées, lesquelles peuvent permettre justement de surpasser ce sentiment, de surpasser les événements, etc., etc. Mais c'est clair que c'est ce cinéma mainstream qui propose ce genre de fiction travaille sur des choses. C'est des histoires dont on sait qu'elles vont avoir du succès. C'est pas n'importe quelle industrie qui produit ces fictions-là. C'est des fictions qui sont déterminées à avoir du succès. Et ça fonctionne là-dessus. Après, il y a d'autres alternatives qui se proposent. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je pense qu'effectivement, ça fonctionne sur un sentiment qui est complètement réel, concret, et qui est peut-être tout à fait normal. D'ailleurs, moi-même, si je me souviens bien, quand j'étais adolescente, je me demandais comment échapper au système. C'est peut-être très bien que quand on est adolescent, on cherche justement à échapper à quelque chose qui peut nous sembler peut-être incompréhensible ou peut-être fermé, et que justement, on cherche des alternatives. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles alternatives on peut proposer aussi aux personnes qui en cherchent. Donc là, il y a aussi toute une question d'ouverture, savoir si ces fictions, s'il y a d'autres fictions qui pourraient répondre à ce sentiment de fermeture. Et puis si c'est possible aussi de proposer des alternatives. L'important, à mon sens, c'est pas de dire une fiction, elle est bien ou elle est pas bien, ou si elle fonctionne sur un sentiment qui est un petit peu facile, mais c'est de savoir quelle est la diversité des fictions auxquelles on est exposé, et puis si c'est, cette diversité, elle peut répondre à différentes aspirations qu'on a, parce qu'on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs, et puis on a plusieurs besoins aussi. On a plusieurs besoins tout le temps, puis on a aussi des besoins qui évoluent au fil du temps.
Si, oui. Vincent, vous voulez peut-être rajouter quelque chose, oui.
Ah oui, pardon. Plus, par rapport à la position de l'adolescence, la position de l'adolescence, plus que par rapport à l'époque qu'on vit maintenant, l'adolescence dans l'époque qu'on vit maintenant, c'est plus général aux adolescents que sans rien de succès, plus au fait notre époque maintenant, comment elle est vécue par les adolescents. Je comprends. Quel est le déjà là de notre société qui fait que ça s'est présenté dans une dystopie? Et c'est la position de l'adolescence qui serait prépondérante, ou bien est-ce que ce serait il y aurait des éléments actuels de comment c'est vécu, comment l'adolescence est vécue maintenant?
Je ne suis pas sûre de bien avoir compris votre question, mais je passerai la parole à Marc. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup, on travaille beaucoup avec beaucoup d'adolescents, parce que là, 60% du public d'UNIF a entre 16 et 30 ans. Donc, ce ne sont pas tous adolescents, mais en tout cas, adolescents, puis ensuite jeunes adultes. Et je pense qu'effectivement, ce sentiment d'être dans des systèmes qui sont fermés, il est absolument réel. C'est un déjà là. Par contre, moi, je peux parler que pour cette génération-là avec laquelle je communique, et puis moi, parce que les générations précédentes, je n'ai pas fait parler. Mais si on parle, par exemple, à une génération de laquelle on a beaucoup parlé récemment, parce que c'est le cinquantenaire, la génération mai 68, eux, ils étaient partis plutôt sur l'utopie. Donc, il y a quand même eu un changement assez important de la culture qui consomme. Voilà.
Alors, il y avait une autre question par là.
Oui, merci beaucoup. Ah, peut-être vous voulez répondre.
Pardon ?
Vous voulez peut-être répondre, en fait.
En deux secondes, oui. Mais parce que Nicolas, il n'aime pas quand je parle. Et
Avec modération.
Voilà. Ce que tu fais très bien. Non, juste par rapport à ça, ce qui est intéressant dans tous ces films un peu young adult qui sont adaptés de romans, effectivement à succès, c'est pas pour rien qu'ils sont adaptés, c'est qu'on voit une réaction par rapport à un système qui est perçu comme ordonné, avec les castes, etc. C'est pas pour rien d'ailleurs que cela. Et puis que la réaction à ce système ordonné où on vous met en rôle et puis vous ne pouvez pas vous sortir du rôle, c'est ce qui rend d'ailleurs Divulgent intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont entre les rôles, va s'appuyer sur l'émotion comme réaction, mais comme induction aussi d'un système que Alain pourrait parler pendant des heures, c'est-à-dire c'est le système épique. C'est soudainement, l'émotion va être vécue dans une communauté de gens qui refusent une sorte de système très dur, des castes en fait, et puis qui va se mettre en place un ensemble d'aventures qu'on va interpréter souvent comme un truc plan-plan américain. Vous voyez, il y a des aventures, enfin, c'est un peu épique, mais ce régime épique, on le voit revenir très fortement dans le cinéma américain et dans les productions japonaises. C'est cette espèce d'épique qu'on a évacué de l'Occident, principalement en disant, voilà, alors Alain pourrait parler longtemps de ça, mais en gros, voilà, dès le début du 19e siècle, il n'y a plus d'épopée, il n'y a plus rien, il y a le réalisme qui arrive, etc. Et puis on va s'en nourrir avec des productions aujourd'hui qui viennent plutôt d'Asie ou plutôt d'Amérique. C'est donc ça, ces dystopies, c'est un système rigide et sans émotion. On éprouve une émotion avec un petit groupe de personnes qui va lancer un ensemble d'aventures, de démarches épiques, qui vont réussir, contrairement à une dystopie littéraire souvent qui ne réussit pas. Alors, il faut à la fois satisfaire un peu le spectateur, quand même, pas qu'il se pende à la fin du film, et puis, mais en même temps, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas juste fuir le système, c'est aussi mettre en place quelque chose de nouveau, qu'est ce régime épique que vous voyez partout, d'ailleurs, quand vous allez à Polymanga, dans les gens qui se déguisent et qui se cosplay. Vous voyez, cette espèce d'incarnation d'une sorte d'épopée contemporaine qu'on n'a pas assez inspectée, à mon avis, qui est pourtant appelé par les anthropologues. Je pense à un texte assez connu de Eliade qui disait « Faudrait qu'on inspecte le film d'aventure. » Je parle de ça en 36. « Faudrait qu'on inspecte le film d'aventure parce qu'à mon avis, les grandes mythologies épiques contemporaines s'expriment à travers ce médium-là. » Et il comprend bien que sans épopée et sans mythe, l'humain s'écrase. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec ce cinéma-là qui se dédie aux adolescents, mais pas que, parce qu'on peut rester... D'ailleurs, je trouvais que t'étais sympa avec le jeune adulte jusqu'à 30 ans, parce que si vous êtes une fille, peut-être, mais les garçons, c'est encore ado, 30 ans, vous voyez. Donc, en tout cas, pour ma part, 40 ans aussi. Mais il y a peut-être cet état d'esprit adolescent qui m'intéresse plus que l'adolescent Young Adults catégorie éditoriale dans les librairies, si vous voulez.
Alors...
J'ai tout de suite la question. Je veux juste ajouter un truc qui est quand même assez important. Bon, je parlais de la génération précédente qui était plutôt dans l'utopie et celle maintenant qui est, pour qui ça marche beaucoup les récits dystopiques. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette dystopie, elle est portée par une certaine industrie parce que la génération dont on parle actuellement a surtout consommé des fictions, en tout cas dans le domaine du cinéma, de la série, etc., qui sont formatées pour l'âge. Donc ce que je disais avant, c'est assez important, cette question de la diversité puis de l'exposition à différents types de fiction. C'est qu'effectivement, quand on est exposé à des fictions qui sont exclusivement formatées pour notre âge, ben, effectivement, après, on arrive à une certaine uniformisation. Là, c'est moi qui ai mon petit moment de dystopie. Mais effectivement, du coup, comme l'utopie est très peu... en vogue dans les domaines mainstream, eh ben effectivement, on a peu de, il y en a, mais il y a peu de fictions vraiment de grande envergure, en tout cas qui ont beaucoup de succès pour cette cible, qui sont en rapport avec l'utopie, parce que c'est compliqué, parce qu'à ce moment-là, l'utopie, il y en a beaucoup, il y en a autant qu'il y a de personnes, qu'il y a de niveaux sociaux, etc. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de proposer des utopies qui ont du succès que des dystopies, où là, on se retrouve plus facilement.
Merci. Alors donc.
Merci. Voilà. Moi, j'avais plus une question un peu pour la suite. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir garantir, enfin, comment est-ce que la fiction critique va pouvoir encore garder une certaine pertinence et surtout une visibilité, surtout dans une société où on voit que maintenant il y a des choses très irrationnelles qui deviennent maintenant rationnelles, comme je vois par exemple les sociétés où on note. On voit en Chine, et même par exemple, on voit Uber, où on note des utilisateurs, enfin des chauffeurs Uber. Maintenant, les chauffeurs d'Uber peuvent mettre des notes sur les utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il faudra avoir un certain minimum à atteindre. Donc, c'est un petit peu, moi, ma question, c'est quelle peut être un peu la suite, justement, de la fiction critique. Et comment est-ce qu'on peut encore garder sa pertinence, alors que maintenant, voilà, on accepte petit à petit des choses qui nous paraissent complètement irrationnelles, et maintenant qui deviennent rationnelles.
Peut-être Vincent Gessler, vous auriez...
Mais moi, je ne suis pas sûr que c'est irrationnel, en fait. Dès le moment où on a la possibilité de le faire, je ne suis pas certain que le fait de pouvoir se noter... Ce n'est pas différent du système de réputation qu'on pouvait avoir avant les ères de télécommunication, où finalement, on dit à sa voisine, non, on ne va pas chez lui, c'est nul, le repas. Ou bien le gérant à qui on dit, attention, ce voisin de quartier, s'il vient, il peut être pénible. Simplement, ça répand des manières de faire qui sont déjà répandues dans la société. Moi, j'ai constaté ça de manière pas plus irrationnelle dans le milieu du jeu vidéo ou dans des univers persistants en ligne dont il était question tout à l'heure. Il y en a en particulier qui s'appelle EVE Online, qui est un jeu de vaisseaux spatiaux assez considérable avec beaucoup de protagonistes qui viennent de nations, d'aires culturelles différentes. Par exemple, il y a les Russes qui débarquent tout à coup parce que le jeu il est localisé en russe. Ils arrivent avec leur culture, ils arrivent avec leur mode, et il y a des communautés qui s'agrègent autour d'une entité linguistique et culturelle. Et finalement, ça ne me choque pas plus que ça qu'on le retrouve aujourd'hui dans les nouvelles technologies. Et je trouve que c'est un terrain ouvert pour la fiction qui est considérable.
Mais peut-être pour le formuler autrement, c'est un peu comme disait Marc Attala, c'est le côté addiction, etc. On est, imaginons-nous, toujours plus insérés dans cette technologie. Bon, on s'y laisse aller aussi, hein, faut bien le dire. Et donc, effectivement, alors du coup, est-ce qu'on va devenir peut-être un peu comme ces héros du Marquis de Sade, dont les sens sont tous émoussés à force d'avoir tout essayé? Est-ce qu'on va être moins réceptif
à la
littérature critique?
Il faudrait qu'on ait une vie qui soit un peu plus longue. Là, c'est un peu misérable, notre espérance de vie. Si on pouvait déjà avoir 200 ou 300 ans d'espérance de vie en plus, peut-être on pourrait commencer à un peu se poser la question. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on n'en a pas fait le tour. Que chaque époque, elle réinvente les choses à sa manière, les paradigmes changent, la culture évolue. Je suis assez optimiste. Hein.
Moi, je vais répondre à qu'est-ce qu'on fait, quelle est la suite de la fiction. Moi, j'ai l'impression que déjà, c'est au sens l'art en général, parce que la fiction, c'est une forme d'art. Et je pense que l'art aujourd'hui, et en particulier ces choses-là, sont assez intéressantes. Je ne vois pas pourquoi ça va diminuer, première chose. Enfin, et puis son utilité, elle est toujours assez problématique, parce que la question, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on fait ? Les théoriciens de la fiction montrent assez facilement la chose suivante. La fiction, elle a un pouvoir subversif, parce qu'elle vous permet de conscientiser et de créer des nouvelles relations, type « Ah, je suis évalué par mon chauffeur Uber, c'est bizarre. Voilà. » Mais bon, après, on s'en fiche, en général, de ça, dans le monde réel. Et la fiction, elle va mettre toujours le doigt là-dessus. Pas tout le temps, évidemment, vous êtes tout un ensemble de fictions qui ne font pas du tout ça, mais si vous prenez la dimension critique des fictions, elles font ça. Après, c'est plutôt mon envie de m'accaparer, ça... comment je peux modifier mon agir et mon pâtir, moi, hein, c'est ce que disait Ricoeur. Comment je peux changer, grâce à un texte de fiction qui me propose une nouvelle conception des choses, une nouvelle compréhension des choses, qu'est-ce que je vais garder ? Mais vous voyez, quand vous parlez de la fiction aujourd'hui, vous pensez que c'est du divertissement ? Ouais, pas... Et c'est cette phrase masculine de base qui va voir un film de super-héros, qui nous apprend plein de trucs, qui dit « on va se vider la tête ». Et ça... Moi, je peux vous parler pendant 3 heures de Pacific Rim et d'Avatar sans aucun problème, plus que n'importe qui sur un autre film, parce que je pense qu'il n'y a plus ces distinctions. Et je crois que ce n'est pas la question de la fiction qui importe, mais notre capacité à, et je crois que les études artistiques et littéraires n'ont jamais été aussi importantes aujourd'hui, à être capable de rappeler qu'on est censé les lire. Et les lire, ce n'est pas simple. Mais à une heure où il faut consommer à chaque demi-seconde, sinon vous êtes un peu tué par le dieu commerce... Ben évidemment, c'est un peu plus compliqué. Mais les dystopies, c'est gigantesque. Après, est-ce que vous allez l'assumer socialement ? Il y a des gens qui le font. Il y a plein de gens qui refusent catégoriquement ceci ou cela. Il y a encore des gens, c'est bizarre, qui n'ont plus de téléphone, qui veulent pas de téléphone portable. Les autres, c'est de la mauvaise foi sartrienne. C'est ouais, ben j'en veux pas, je trouve ça bête et ça m'aliène, mais bon, quand même, c'est pratique. Ben évidemment, la fiction, elle vous dit bah oui, vous pouvez dire ça. Mais si vous dites ça, c'est que vous êtes un junkie d'abord. C'est pas parce que c'est pratique. Et je pense qu'elle a un rôle fondamental à jouer aujourd'hui, mais ça demande aux structures éducatives et aux gens qui prônent le discours fictionnel de rappeler ces évidences-là et puis d'en faire quelque chose. Et moi, je sais que je vois beaucoup de. J'ai la chance de voir beaucoup de profs un peu désespérés qui disent ah, on va absolument faire ce texte, on fait comment ? Et c'est génial de voir que ça se passe. Donc, je vois un bon avenir. Je suis assez, pas utopiste, mais optimiste, c'est pas la même chose. Parce que je crois que c'est cette conscientisation grâce à la fiction qui amènera des réflexions singulières. Si vous voulez monter au niveau communautaire, bon, alors là, soudainement, vous arrivez dans un truc problématique, vous en faites une religion, et ça cartonne, ça. Hein mais c'est un peu plus du bullshit, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir manipuler un peu les gens pour que. Mais moi, je crois que l'enseignement a un rôle fondamental à jouer par rapport à ça. Et je crois qu'autant la science-fiction que d'autres types de récits peuvent être aujourd'hui lus avec intelligence, parce que ces générations qu'on laisse un peu en plan en disant bah voilà, tu t'es fait un peu avoir par les jeux vidéo, t'as pas de bol. Bon, déjà, on les aide pas parce qu'on leur file pas d'outils. D'autre part, on leur montre pas d'autres jeux vidéo intéressants, tout comme ce que disait Anaïs par rapport à un autre cinéma. Mais il faut aussi connaître le cinéma mainstream, il faut connaître la littérature populaire pour après pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Sinon, alors on reste dans une espèce de sphère d'initié. Et je pense donc que le rôle est fondamental et je pense qu'il va croître bizarrement. Parce que grâce au cinéma populaire et mainstream, les gens ont vu ces scénarios. Les années 60, c'est qui regarde de la science-fiction, de la dystopie en Europe, quoi. Franchement, il y en a très très peu. Cette espèce de groupe de gens un peu bizarres qui s'habillent en... Enfin, bref. Aujourd'hui, on a la chance que tout le monde connaît Divergent, en fait, bizarrement. Et depuis là, on peut faire quelque chose. Tous les jeunes jouent à des jeux vidéo. Depuis là, on peut faire quelque chose. Et je pense que les structures de pouvoir peuvent en faire quelque chose de bien. En tout cas, c'est ce que je crois.
Alors voilà, il y avait déjà Vincent Gessler qui parlait d'optimisme avant, maintenant Marc Attala. Je crois qu'on peut terminer sur cette note d'optimisme général. Donc, merci beaucoup, en tout cas. Passez une soirée la plus utopique possible. Du coup, demain matin, le réveil sera de toute façon assez dur. Donc, profitez au moins de la soirée. Merci.
Merci beaucoup. Juste avant de se quitter, je voudrais vous donner rendez-vous. Donc d'abord, remercier tous nos intervenants et intervenantes et Nicolas Dufour pour l'animation et vous pour votre participation. Vous donner rendez-vous le 21 novembre, ici même. On traitera de génétique récréative. Donc c'est tout un programme. Voilà, on sera peut-être dans une espèce de dystopie qu'on va prolonger dans la discussion. Et qui nous est proposé par l'Institut de droit de la santé. Voilà. Donc, au 21 novembre. Merci beaucoup et bonne soirée.